l'actualité, que Québec se lève.
Que Québec se lève, OFM 93.
J'ai l'impression que tout est concept. J'ai aussi entendu une poule dans la petite musique du FM 93 à Que Québec se lève. Mais là, on passe aux choses sérieuses parce que cette semaine, on est une bonne gang. Hein? Plusieurs auditeurs du 93 aussi. On a gagné à la loto.
Oh!
La loto de la malchance, mes amis. Combien faites ça avec moi, là, le vol de données personnelles chez Desjardins? Hein? Le nouvel ajout, en plus, hier qu'on a su, on apprenait finalement à quoi vont servir nos données personnelles dans les prochains mois, mes chanceux, Colin, à des groupes criminels.
Ben oui, ben c'est rassurant, ça.
On est-tu chanceux? Regarde, là, je vais revenir plus sérieuse, mais à un moment donné, on ne sait plus où donner de la tête. Certainement qu'on est tanné d'en entendre parler, mais c'est vraiment essentiel de comprendre tout ce qui se passe pour mieux se protéger, notamment pour être capable de réagir si la situation revient, mais pour savoir aussi, crime, nos infos sont rendues où? C'est quoi le dark web, en gros? Il y a quand même 2,9 millions de clients de Desjardins qui avaient essentiellement été volés et que là, on apprend que les données sont rendues sur le dark web. Pour mieux comprendre, on a décidé d'inviter Jean-Philippe Descaries-Mathieu, chef de la cybersécurité commissionnaire, pardonnez-moi, du Québec. Bonjour. Monsieur Descaries-Mathieu.
Bon matin.
Très heureuse que vous ayez accepté l'invitation ici à Que Québec se lève. Premièrement, ben, commençons avec l'explication de base. C'est quoi le dark web?
Le dark web, tel que c'est conçu, en fait, là, ce qui est accepté comme explication, là, c'est pas mal. On peut le voir comme un réseau parallèle au web standard sur lequel, pour se connecter, il faut un logiciel spécial ou un mécanisme spécial. En fait, on parle de dark web, donc plusieurs dark web. Il y en a quelques-uns qui sont connus, mais le plus connu, c'est Tor. Ça, c'est dans le fond, c'est tout ce qui n'est pas indexé par les engins de recherche standard. Si on peut pas juste chercher sur Google Darknet et trouver une manière d'y accéder, il faut un logiciel spécial pour ça. Et c'est sur Tor, le cas spécifiquement qui nous intéresse, probablement dans ce cas-ci, ça permet d'accéder au web standard de manière anonyme ou des sites qui existent uniquement sur ce darknet.
OK, je comprends.
Fait que dans le fond, ce qui nous intéresse, c'est les marchés qui vendent ces informations-là sur Tor.
OK, mais c'est un univers là, qui semble un peu loin de nous, mais de ce que je comprends, finalement, c'est assez accessible. Tu parles de juste Tor, puis quand je regardais, il y a 2-3 marches à suivre à faire que moi-même, je pourrais aller sur mon ordinateur personnel puis je décide de pas y aller, là. Mais ça a l'air assez facile d'accéder au dark web.
Oui, ben, oui, puis ça se veut facile aussi parce qu'à la base, dans le cas de Tor, encore une fois, c'est un organisme, dans le fond, c'est une compagnie qui fait ça, basée aux États-Unis, mais qui ont du monde un peu partout. Leur but premier, c'est de donner un réseau qui augmente l'anonymat pour un maximum de personnes, que ce soit pour des journalistes, des lanceurs d'alerte, okay, des personnes qui sont dans des pays où il y a la répression. Donc le but, c'est à la base, c'est parfaitement légitime de ce réseau-là. Malheureusement, c'est souvent utilisé par des criminels parce qu'à cause justement de cet élément d'anonymat intéressant-là, ça leur permet d'effectuer des transactions frauduleuses et carrément illégales, okay, sur certains sites qui existent uniquement sur ce darknet-là.
Fait que c'est pas seulement des criminels qui s'y aventurent, puis c'est ce qu'on croit comprendre au départ, mais ça n'a pas été créé dans ce but-là. C'est quand même intéressant. Peux-tu, s'il vous plaît, me faire la différence entre le dark web et le deep web? Parce que je pense qu'il y en a une bonne.
Oui, en fait, faut le concevoir un peu en l'Internet comme trois niveaux, là, si on veut. Là, on a le web standard, là, où que la majorité des gens utilisent tous les jours, se connectent, vont sur la presse, sur CNN.com, peu importe. On a une autre couche en dessous qu'on peut appeler le deep web, c'est tout ce qui n'est pas indexé par les engins de recherche comme Google. Ça peut être très, très large. Ça peut être tous les intranets d'entreprise, les sites de transfert de données, tout ce qui est dans le fond qu'on ne peut pas rechercher sur Google, dans le fond. Et ça, c'est la très, très vaste majorité du contenu sur Internet. On parle de 99% à peu près. Là.
Okay.
C'est le deep web. Puis à l'intérieur de ça, si on veut, c'est le darknet,
okay,
ou les darknets. Ça prend, dans le fond, c'est des réseaux parallèles au web. Ça nécessite un logiciel spécial pour y accéder. Puis souvent, ces réseaux-là ont une emphase sur le chiffrement, l'anonymat, la vie privée, ouais, ou ce genre de trucs-là.
OK, fait que c'est vraiment là où on est anonyme, c'est dans le dark web, à l'intérieur du deep web, qui est à l'extérieur des réseaux de recherche là, qu'on connaît comme Google quand même. C'est un gouffre sans fond, là, si je vous suis bien.
Oui, mais faut pas trop le conceptualiser comme à l'intérieur. C'est pas comme des poupées russes. Là.
Ouais,
c'est, pas dedans, c'est pour le visualiser, ça aide, là, mais mettons, okay, on peut le voir comme un réseau parallèle. Là.
OK, c'est quand même complexe, le web. Hein? Là, on va revenir à nos données personnelles qui se retrouveraient sur le dark web. On comprend qu'on ne peut rien faire, mais selon vous, est-ce que le pire est derrière nous côté diffusion de celle-ci?
Oh non, vraiment pas. Non, vraiment pas, parce que en fait, c'est dans l'air du temps. Hein. C'est pas quelque chose de nouveau ce qui arrive. Bon, vous savez, moi, quand j'ai entendu la nouvelle, j'ai pas exactement tombé en bas de ma chaise. Là. Évidemment, je suis pas le public cible là, non plus, là, ah, dans le sens que je deal avec ça tous les jours. Mais on est dans l'air où les fuites de données, ça représente quelque chose qui est non seulement un état de fait, mais c'est quelque chose d'extrêmement monnayable. Les données personnelles, ça vaut de l'argent. C'est l'ère de la guerre de la Silicon Valley qui est un peu le modèle d'affaires, de ces modèles d'affaires-là dans Silicon Valley qui est très dominant. C'est pas pour rien qu'on paye pas, entre guillemets, quand on accède à Facebook, Instagram et compagnie. C'est que ces données, ces compagnies-là utilisent nos données personnelles pour faire de l'argent, pour faire du profilage de marketing et autres. Là. Donc, c'est rien de nouveau. Fait que forcément, des fuites de données vont représenter un attrait lucratif pour quelqu'un qui a, mettons, qui est à l'intérieur d'une entreprise X, comme ce qui est arrivé dans le cas de Desjardins, et qui a une opportunité de revendre, de prendre ces données-là puis de le revendre à quelqu'un. C'est ce qui semble être le cas ici présentement,
si
on suit à ce qui est sorti dans les médias. C'est sûr que là, il y a toujours pas d'accusation, à moins que je me trompe, là, mais il y a toujours pas d'accusation portée contre la personne en question. Il y a une enquête en cours.
Exact.
Il y a encore du flou, hein. Fait que moi, c'est sûr que je peux toujours toucher un peu m'avancer sur des.
Mais vous l'analysez de l'extérieur, selon ce que vous connaissez. Mais tu sais, vous parlez de profilage marketing. Je pense que c'est une des choses qui m'inquiète le moins. On reçoit tellement de textos quand on parle de ça. Je vais prendre votre opinion, puis je sais que vous vous basez sur ce que vous avez lu, mais encore là, vous gardez certains un pied derrière, là, pour pas trop vous mettre dans l'histoire parce qu'il y a une enquête. Mais selon vous, selon ce que vous avez déjà vu dans le dark web, c'est quoi qu'on a le plus à craindre par rapport à l'utilisation de nos données qui vont probablement être achetées par des groupes criminels?
Bien, c'est sûr que ça dépend. Il n'y a pas une réponse à ça parce qu'il y a plusieurs possibilités. Ça dépend. En langage, en sécurité de l'information, on parle d'un modèle de menace. Dans le fond, c'est que moi, ma vulnérabilité est pas la même par rapport à un vol de données que la vôtre ou que celle d'un procureur ou que celle qu'un agent double des forces de l'ordre.
Oui.
On s'entend, là. Si quelqu'un a ses informations personnelles, c'est, mettons, il y a un groupe criminel qui sait qu'ils ont une liste de procureurs qui les fait chier, puis ils veulent faire de quoi contre eux. Puis là, ils se retrouvent en possession de leurs données personnelles, numéro d'assurance sociale, où ils habitent, ou de l'information complémentaire à ce qu'ils ont déjà. Évidemment, là, c'est peut-être dangereux pour ces personnes-là. Votre tante Ginette, qui est à la retraite, peut-être que son modèle de menace est assez réduit. Donc, elle, c'est plus, mettons, le vol d'identité directement.
Création de passeport ou encore de carte de crédit à son nom et tout ça. C'est pour ça qu'on lisait dans les journaux hier, notamment le Journal de Québec, où il y a certaines personnes qui sont dans la police ou encore qui sont en justice, qui craignent actuellement des représailles de tout ça. Fait que je le comprends bien dans ce que vous venez de m'expliquer.
Oui, c'est une possibilité. C'est sûr que il faut voir aussi, parce que si je me mets, mettons, là on prend le pire scénario, là, mettons, un groupe criminel qui cible quelqu'un des forces de l'ordre, dépendamment du groupe criminel, il y a des bonnes chances qu'il y ait beaucoup d'informations déjà sur ces personnes-là. Donc, c'est pas nécessairement une découverte du siècle, mais ça peut l'être. Ça dépend, là, comme je dis, il y a beaucoup de zones floues là, présentement dans cette histoire-là. Il y a beaucoup de spéculations qui entourent aussi cette fuite de données-là par rapport à ce qui peut être fait avec ça. C'est sûr que c'est un package deal pour le vol d'identité. Au minimum, là, c'est sûr que si, mettons, on le prend en bloc, si ça a vraiment été acheté en bloc, ça représente quand même beaucoup d'informations qui peuvent être utilisées pour faire beaucoup de choses, surtout quand on l'utilise pour avec des données croisées avec d'autres fuites de données qu'il y a eu dans le passé. Puis des fuites de données, il y en a eu, puis il va en avoir d'autres. Surtout, mettons, on peut avoir plein de fuites qu'il y a eu sur des sites comme LinkedIn, sur tous les gros sites
ont été victimes
à un moment ou un autre de fuites de données. Quand on met tout ça ensemble, c'est là que ça devient dangereux.
OK, mais pourquoi le fait que ça ait fuité en masse, plusieurs individus ont perdu leurs données personnelles, ou du moins ont vu leurs données personnelles un peu diffusées sur Internet, et pire que si c'était 5 individus?
Ben, c'est ça, faut voir le format un peu que ça a pris, là, si ça a été vraiment revendu à l'extérieur ou que ce soit, c'est sûr que si c'est un bloc, c'est vendu en bloc, c'est tellement de monde, c'est qu'à un moment donné, c'est que ça va selon l'offre aussi, la demande en fait sur les réseaux illicites, sur Darknet, il y a des gens qui vont aller sur ces marchés-là, ils vont dire, moi, j'ai besoin d'un profil d'un homme blanc âgé entre 25 et 35 ans, Puis ça peut être aussi mondain que j'ai un dossier criminel, puis je suis pas capable de me payer une job, j'ai besoin d'une autre identité. Mm. Ou ça peut être vraiment plus, permettez l'expression anglaise, at scale, où vraiment là c'est qu'on veut faire un profilage de personnes où on va faire des
crimes
des
avec
vols d'identité.
Ouais.
Moi, vraiment, okay. beaucoup plus de personnes. Donc, ça dépend encore là, ça dépend de ce qu'on veut faire avec. Mais c'est sûr, c'est que ça représente tellement de personnes. C'est quand même un Québécois sur trois, là.
Mais non, c'est énorme.
C'est aussi les habitudes de consommation qui viennent avec, qui ont été dérobées avec le numéro d'assurance sociale. C'est quand tout ça mis ensemble, puis un nombre tellement important que ça devient extrêmement dangereux.
Donc, on sait, par exemple, moi, mon nom, c'est Pascal. On sait, Pascal, elle consomme quoi? Ça pourrait nous aider à faire une fraude en relation avec ses habitudes normales pour que ça puisse mieux passé. Question d'une auditrice. Si nos données sont rendues sur le dark web, est-ce que ça nous prend une protection supplémentaire, une protection à vie, gratuite par un organisme sérieux et solide?
En tout cas, si jamais vous connaissez un organisme comme ça, faites-moi signe parce que j'en connais pas à date. Okay. C'est assez audacieux hein, comme proposition. Puis c'est, en fait, la réponse à ça, c'est probablement oui. Est-ce que ça va se faire? Parce que c'est tellement un niveau de complexité, c'est que des flux de données comme ça, ils vont en avoir d'autres, c'est certain. Là, on parle dans le cas de Desjardins, c'est un cas spécifique de quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise qui a exfiltré des données. Ça s'appelle un insider threat, en jargon, du milieu. Ça, c'est très dur de se prémunir contre ça, ils vont en avoir d'autres. Mm. Et on gère tellement, les entreprises gèrent tellement de données en 2019 que c'est très, très dur de se prémunir contre l'exfiltration de données, même aussi petite soit-il. Mettons, si on prend ça, on dit que ça aurait été moins pire s'il y avait eu 30 000 personnes dont l'information aurait fuité. Là. Mais ça reste quand même 30 000 personnes avec extrêmement plein d'informations. Puis c'est pas, il n'y a pas de recette miracle pour sécuriser ces informations-là. C'est des bonnes pratiques. La sécurité, c'est un processus. Hein. C'est pas un produit. Fait qu'il n'y a pas un organisme miracle qui va venir à bout des flux de données. Il n'y a pas un logiciel qui va contrecarrer toutes les tentatives d'exfiltration.
On est un peu condamné.
Je ne voudrais pas être dans la peau de Desjardins aujourd'hui pour dire que ça n'arrivera plus jamais dans le futur. Dans les faits, c'est pas réaliste de dire que ça n'arrivera plus, puis ça peut arriver à n'importe quelle entreprise.
C'est ça l'affaire, oui. C'est sûr qu'il faut prendre des protections supplémentaires puis surveiller nos employés. C'est pas mal la lacune de ce qui s'est passé dans Desjardins, si vous me permettez, opinion personnelle. Mais bon.
En fait, c'est ça. On ne sait pas pourquoi qu'il a fait ça.
C'est ça.
On a une hypothèse.
Qu'il y avait des problèmes personnels, financiers, puis qu'il voulait se faire un montant d'argent. Ben, pour le reste, ça sera à suivre pour l'enquête, mais chose certaine, on semble condamné au risque de notre époque. C'est ce que je comprends.
Oui,
on vous a pas invité pour être rassurant, mais du moins pour être éclairant. Vous l'avez très bien été, M. Descaries-Mathieu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.
Jean-Philippe Descaries-Mathieu, qui est chef de la cybersécurité à Commissionnaire du Québec. Je pense qu'on est un peu condamné à tout ça. Beaucoup de gens sont inquiets. Je m'excuse d'en reparler ce matin, mais avec les informations qui sortent au compte-gouttes, on n'a pas la possibilité d'éviter le sujet, encore une fois.